Je vous présente Jenna Smith. Alors, quand même, Jenna, c'est ma nièce par alliance. C'est la fille du frère à Cheryl. Mais elle est ici en tant qu'ouvrière de Dieu. Elle travaille pour Direction chrétienne, une mission urbaine qui est à Montréal depuis 1967. Donc, Jenna, ça fait longtemps qu'elle travaille pour le Seigneur. Elle a été pendant 17 ans la directrice d'innovation jeune qui investissait dans les jeunes et les familles du centre-ville et qui continue. Mais là, tu as changé de rôle dernièrement et tu es en charge de l'engagement et la sensibilisation. Aider les églises, comme l'Oasis, mais beaucoup d'autres églises à Montréal, à comprendre leur quartier et mieux servir. Et un des projets vraiment intéressants dont tu vas nous parler, c'est le projet RAFA, un projet mené par la communauté sur la violence conjugale et l'Église au Québec. J'ajoute maintenant, par rapport à Jenna, je reviens à Jenna un instant, elle est mariée à Nick, on l'appelle Nick, mais Nicolas, depuis 18 ans, ils habitent Verdun. J'ajoute un détail, vous avez un chien rescapé qui s'appelle Wilma. Est-ce que j'ai raison de dire ça? Oui, pour ceux qui aiment les animaux, il s'agit d'un chien sauvé d'une situation mauvaise, je crois. Hein?
C'est le meilleur chien.
C'est le meilleur chien au monde.
À part vos chiens à vous, là, justement.
Et Jenna aussi fait des études en théologie en France et au Québec. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet biblique parce que Dieu a de quoi à nous dire sur la vie de famille et le problème de la violence. Donc, c'est un sujet délicat, mais il faut qu'on en parle et le psaume 55 nous en parle. OK, tu vas nous guider. Et puis, je vais revenir au micro à la fin. Quand Jenna a terminé, pour expliquer un peu, pour ceux qui aimeraient en savoir plus, pour ceux qui sentent qu'ils aimeraient de la prière, tout ça reste évidemment confidentiel, mais je vais vous expliquer comment ça va fonctionner. Alors, on a déjà prié, donc Jenna, je te passe le micro.
Merci. Bon matin. Alors, premièrement, je tiens à remercier Marc et Mylène qui ont pris le soin cette semaine de communiquer avec moi et moi avec eux pour préparer le sujet. Pour adresser un sujet comme la violence et surtout la violence familiale, ça prend évidemment le soutien du leadership de l'Église et on a passé du temps en prière et en discussion sur le sujet que j'allais apporter ce matin. Donc, je tiens vraiment à remercier vos pasteurs ce matin pour ça, pour le soutien puis l'ouverture que j'avais. Comme Marc a dit, je travaille à Direction chrétienne. Ça fait plusieurs années que je suis là et j'ai eu le plaisir de collaborer avec les églises de l'ouest de l'île. Et dans le projet que je dirige présentement, nous avons eu beaucoup de collaborations des églises de l'ouest de l'île sur cette étude qu'on a menée sur la violence conjugale et sa présence parmi les familles dans les églises chrétiennes du Québec. J'aimerais ça qu'on respire par le nez. Car mon but aujourd'hui, ce n'est pas de vous traumatiser. Et même si je passe beaucoup de temps en ce moment à recueillir beaucoup de témoignages de femmes qui sont survivantes, des femmes chrétiennes qui sont survivantes de la violence conjugale, je ne vais pas vous raconter des histoires en détail. Je vais parler des histoires dans la Bible. Mais il n'y a personne ici qui va devoir, j'espère, porter une ceinture de sécurité pour survivre à ma prédication. On n'a pas besoin de se traumatiser pour se sensibiliser. On n'a pas besoin de s'exposer à plein de blessures afin de prendre note d'un sujet difficile. Et je crois sincèrement, mes chers amis, que nous sommes appelés, en tant que disciples de Jésus-Christ, à confronter des sujets difficiles et que l'Évangile et les histoires de la Bible, nos textes sacrés, ne cesseront jamais de s'infuser leur vérité dans la question de la violence et de la guérison. ça, j'y crois vraiment et j'y tiens. Le projet que nous avons nommé le projet Rapha, et le nom a été dit pendant la louange, mais Rapha, ça veut dire en hébreu guérison. Et nous avons choisi ce nom-là car nous croyons que de révéler, c'est de commencer à guérir. Et c'est ça le but du projet Rapha, c'est de commencer à guérir cette histoire de violence conjugale. Et ça commence ici, dans nos églises. La Bible, pour moi, le plus que je m'aventure dans ce sujet-là, le plus que j'explore le sujet, je suis de plus en plus convaincue que la Bible reste un excellent point de départ, sinon le meilleur point de départ dans le sujet de la violence familiale. Je tiens juste à dire, par contre, que le sujet est quand même un sujet adulte pour les parents qui sont ici. Alors, pourquoi le psaume 55? Alors, ici, dans le psaume 55, alors que je faisais mes recherches et je faisais le sondage qu'on avait passé à plus de 500 personnes au Québec qui sont chrétiens, que je recueillais des témoignages, j'ai dit, mais il nous faut un texte biblique qui va être capable de nous ancrer un peu dans notre vision, un texte biblique qui va être capable d'exprimer l'émotion ressentie par les personnes que nous entrevuons. Et vient une invitation d'une église, ils m'ont invité à venir pour une cérémonie de prière pour les femmes victimes de violence, et ils m'ont demandé de lire le psaume 55, et j'étais là, oh, le psaume 55, d'accord, et en le lisant, j'ai dit, ah, voilà mon texte. Voilà mon texte. Et je vais vous raconter l'histoire de ce qui s'est passé derrière le psaume 55, mais en premier les paroles, et on va prendre pour acquis que c'était le roi David qui exprimait cette douleur-là. Et il dit, « Ce n'est pas un ennemi qui m'insulte, ça je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'attaque à moi, je me cacherai devant lui. C'est toi, un homme de mon rang, toi, mon confident. » Et mon ami. Alors, si c'était un ennemi qui me faisait ce tort-là, je pourrais le prendre. On s'attend à ça d'un ennemi. Mais d'un confident, d'un ami, de quelqu'un dans notre parenté qui nous fasse mal, ça, c'est une autre blessure sur un autre niveau. Et ensuite, il continue, il dit, « Cet homme porte la main contre ceux qui étaient en paix avec lui, il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. » Et ça, je ne pourrais pas vous dire combien de fois que j'ai entendu parmi mes témoignages que j'ai recueillis cette même émotion-là. Des femmes qui me disent, « Jenna, j'avais tellement d'amour à donner et j'ai pris des vœux sacrés, spirituels. Je me suis attachée à cette personne-là devant Dieu et notre alliance a été brisée par sa violence. » Mais la guerre est dans son cœur et ses paroles sont plus onctueuses que l'huile. Ce sont des épées dégainées. Alors, qu'est-ce que David est en train de nous raconter? Qu'est-ce qu'il est en train... Parce que ce n'est pas seulement un conflit qu'il est en train de vivre. Ce n'est pas seulement un moment de désespoir ou un moment de difficulté. Il est en train de décrire une trahison et une trahison qui venait de quelqu'un à qui il s'était attaché en amour. Les biblistes croient qu'il est en train de raconter ce qui s'est passé entre lui et son fils Absalom, et je vais revenir à cette histoire-là, mais c'était une histoire absolument tragique de violence familiale et à plusieurs membres dans la famille de David. Ces paroles-là dans le psaume 55 font tellement écho à ce que les femmes nous racontent, alors qu'elles avaient dit qu'elles avaient pris un vœu spirituel avec leur mari, que c'était une relation d'amour, qu'on avait un confident, un ami, et ensuite que tout ça a été brisé par cet élément de trahison-là. Alors, lorsque je dis le mot trahison ou violence relationnelle, le mot trahison vient du latin « tradere », qui veut littéralement transmettre ou livrer. C'est comme donner quelqu'un qui était attaché, mais le livrer, mais vers ou pour un mal. Alors, moi-même, je ne suis pas psychologue, alors je m'appuie beaucoup sur les expertises des professionnels. Mais lorsqu'on parle d'exemples de trahison dans une relation, Madame O'Mara, qui est une doctorante en relations d'aide, décrit 4 éléments de trahison. Alors, on parle de mensonge à répétition ou de manipulation, l'humiliation ou de dénigrer un proche, soit publiquement ou en privé, l'infidélité émotionnelle ou sexuelle, et finalement la violence physique. Et lorsqu'on parle dans le domaine de la violence familiale ou la violence conjugale, il y a aussi ce qu'on appelle le cycle de la violence, c'est-à-dire ça passe par phase, puis c'est toujours dans le but de dominer. C'est toujours dans le but de contrôler l'autre. Alors, on ne parle pas d'un simple conflit, et ça, je vais vous donner des exemples de différences entre conflit et abus, mais ici, quand on parle de relations de trahison, de relations violentes, on est dans un cycle. La Bible a beaucoup d'histoires de trahison relationnelle. Qui se souvient de l'école de dimanche et l'histoire de Joseph et ses 11 frères? C'est fou lorsque j'y pense qu'on raconte ça aux enfants. Alors, ce n'est pas une simple rivalité ou chicane de frères. Ce que ces frères ont fait, ils ont trahi Joseph. Ils l'ont vendu. Ils l'ont trafiqué. Et ensuite, ils ont trahi leur père en racontant le mensonge de tous les mensonges. Et le père qui a pensé que son fils était mort, il est passé dans une période de deuil incroyable à cause de la menterie et de la manipulation de ses fils. Nous sommes bien au-delà d'un conflit familial ou une chicane de frères. C'est une violence, c'est une violence très grave qu'ils ont commis contre Joseph. Et Dieu, dans sa bonté, a su apporter une rédemption à cette histoire-là. Donc, c'est assez incroyable le niveau de rédemption et de réconciliation que le Seigneur a pu apporter dans cette histoire-là. Mais leur péché était grave. Qui se souvient de l'histoire de Samson et Dalila? Encore une fois, pourquoi qu'on raconte ça aux enfants? Samson, dans le livre des juges. Alors, la mère à Samson ne pouvait pas enfanter de bébé. Et elle se fait dire par un prophète, « Vous allez porter un fils après des années d'infertilité. » Et ce fils-là allait être un héros d'Israël. Il allait être destiné pour un rôle sacré. Il était juge. Il était l'homme le plus fort en Israël. Il ne pouvait pas couper ses cheveux. Alors, Samson, l'homme le plus fort. Il était comme un peu une figure mythologique, un peu comme Hercule. Les muscles, imaginez-le, il est beau, là. Des longs cheveux, tu sais. Alors, il rencontre Dalila. Et elle se fait dire par les Philistins, aller trouver le secret, pourquoi il est si fort, pourquoi qu'on ne peut jamais le combattre. Et elle le trahit, non pas une fois, non pas deux fois, mais bien 3 fois. En premier, elle dit, c'est quoi le secret de ta force? Si vous m'attachiez avec tel type de corde, OK, fait qu'elle le fait. Non, c'est un mensonge, il est capable de se libérer. Deuxième fois, finalement, c'était un métier artisan, alors avec tel type de corde, tu seras capable. Et encore une fois, il se libère. Et pourtant, il ne la quitte pas. Et là, on a ce verset-là. Quotidiennement, elle le poussait ainsi à bout, avec de telles forces, le harcelant tant, et bien qu'il faillit en mourir avant l'heure, il lui ouvrit son cœur. Et dans certaines versions, on retrouve, il y a différentes traductions, mais dans certaines versions, c'est écrit « son âme voulait mourir ». C'est ce qu'on appelle, en 2023, ce type de relation-là, une relation de violence verbale et psychologique. Et souvenez-vous, la prochaine fois de l'histoire de Samson, la prochaine fois qu'on se demande, cette femme-là, pourquoi qu'elle retourne à son partenaire violent? Cette personne-là, pourquoi qu'il ne fait pas juste quitter son travail si son patron est si harcelant? Pourquoi l'enfant ne se défend pas contre l'ami qui lui intimide dans la cour d'école? Pourquoi? Rappelez-vous que Samson, c'était l'homme le plus fort en Israël. Et il était pris dans une relation de violence verbale et psychologique. Il n'était pas capable de briser le cycle de domination. Il n'a pas été capable. Qui se souvient de David et Absalom? Je vous raconte juste les belles histoires ce matin, hein? OK. Alors, Absalom, qui est le fils de David, et son demi-frère commet un viol contre sa sœur. Alors, déjà une première violence. Et Absalom voit rouge. Il est pris par une telle colère, une rage, qu'il ne voit plus clair. Il tue son frère. Et ensuite, il se fait bannir. Et David a l'impression qu'il va vivre une réconciliation. Donc, il fait revenir son fils et les deux ont une réconciliation, sauf que Absalom n'est pas honnête et ce n'était pas une vraie réconciliation. Encore, on parle du cycle de la violence, hein, le cycle. Et ensuite, derrière le dos de David, en secret, en cachette, Absalom est en train de lever une armée contre son père. L'histoire est vraiment très triste. Et ensuite, les deux s'en vont en guerre, fils contre le père. Le fils meurt. Et David rentre dans sa tente, dans une forte, forte détresse. Il dit, mon fils Absalom, que je donnerais-je pour être mort à ta place, Absalom, mon fils. On ressent l'émotion dans ce verset-là et dans le psaume 55. Mon ami, mon confident que j'ai tant aimé et tu avais la guerre dans ton cœur. C'est ça l'histoire derrière le psaume 55. Et bien sûr, la dernière histoire que je vous ai listée, Judas et Jésus-Christ. Judas qui était l'ami, le confident, le disciple de Jésus. Et ce n'était pas un simple conflit. Judas savait très bien ce qu'il faisait. Il a apporté, il a amené vers son ami la force qui allait faire mal à Jésus. Alors, pourquoi j'ai choisi ces quatre histoires-là? Ces quatre histoires nous démontrent très bien la différence entre conflit et trahison, ou, si on veut appeler ça, abus ou cycle de violence. Un conflit, on peut parler d'un désaccord, une dispute. Ça peut être deux personnes en leadership d'église, par exemple, qui ont deux visions différentes. On voit ça dans le Nouveau Testament avec Paul et Barnabé, par exemple. C'était un conflit, puis les deux sont partis de leur bord. Et il y a certains missiologues qui diraient aujourd'hui, c'était peut-être le Saint-Esprit qui amenait un conflit un peu désagréable, mais vers quelque chose de bien, parce que les deux ont construit leur mission chacun de leur bord, et il y a eu l'expansion de l'Église. En Philippiens, la lettre aux Philippiens, Paul exhorte Évodie et Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Donc, on soupçonne qu'il y avait peut-être un désaccord entre ces deux leaders-là. Puis lui, il dit, mais j'aimerais ça que vous soyez d'un même esprit. Donc, on voyait la résolution de conflits dans la première Église comme quelque chose de super bien. C'est quelque chose qui allait apporter l'amour de Jésus. Donc, le conflit, ce n'était pas forcément à éviter, mais c'était définitivement à résoudre. Est-ce qu'il y a du monde marié ici? Des conflits, des fois, hein? Ça peut être un clash de personnalité. Ou est-ce qu'on s'en va en voyage? Nicolas, j'aimerais ça recevoir des amis 4 fois par semaine. Puis Nicolas qui dit à Jenna, ben moi, j'avais plus à l'esprit 4 fois par année, mais on va résoudre ça, hein? Puis c'est correct, là. Après 18 ans de mariage, on vit des choses. Mais ça, ce n'est pas de l'abus. Et vice-versa, l'abus, ce n'est pas un conflit. Ce qu'on voit dans l'histoire de Samson et de Dalila, ce qu'on voit dans l'histoire de Joseph et ses 11 frères, ce qu'on voit entre Absalom et David, ça va bien au-delà du conflit. On voit qu'il y a une partie qui essaie de faire tort à l'autre afin de contrôler, de dominer. Pourquoi ces histoires sont-elles dans la Bible? Alors, j'ai plusieurs théories. La première chose, c'est que je pense que les écrivains de la Bible nous démontraient qu'il n'y avait aucune limite au péché humain, malheureusement. C'est la condition humaine. Et lorsqu'on n'est pas en ligne et en communion avec Dieu, malheureusement, il n'y a aucune limite au tort qu'on peut infliger sur l'autre. Deuxième raison, je dirais, c'est que le Seigneur voulait qu'on se retrouve et qu'on soit consolé en sachant que malheureusement, cette condition humaine, ça nous affecte tous, que ce soit le roi d'Israël, que ce soit un petit berger, peu importe le pays, peu importe le genre, peu importe la nationalité, la violence, et d'après mes études, de ce que je suis en train de voir, la violence affecte beaucoup de gens partout sur la planète. Mais il y a aussi une autre chose à constater, c'est qu'on avait définitivement besoin de Jésus-Christ. On avait définitivement... Ces histoires-là que je vous ai racontées, c'est le chaos humain. Et là, on a Jésus-Christ qui vient, et la première histoire de violence contre une femme qu'on retrouve, et Jésus fait stop. Et lorsque je parle à des femmes qui souffrent de la violence ou qui sont survivantes, qui ne sont plus dans ces relations-là et qui me disent « je ne sais pas si j'ai fait la bonne chose, je suis chrétienne, je suis partie », et j'ai dit « ben là, il y a une histoire qui est claire, c'est noir sur blanc, c'est écrit sur la page, et lorsqu'il y avait l'opportunité de faire mal à une femme adultère, Jésus a tracé une ligne, il a écrit sur le sol, puis il a intervenu, et c'était clair, il a mis fin à la violence, et il a sauvé la vie de la femme adultère. » On est très clair sur ce que Jésus voulait. On est très clair dans les intentions de Jésus et c'est non à la violence. Pas seulement ça, mais dans cette condition humaine, on voit absolument que nous tous, qu'on soit victime ou qu'on soit quelqu'un qui utilise la violence, on a besoin de Jésus-Christ. C'est très clair. Cette rédemption-là, on en avait vraiment de besoin. Pourquoi, en tant que chrétiens, devons-nous parler de ce sujet? Alors, comme je vous ai dit, ça fait plus d'un an maintenant que Direction chrétienne est dans une étude, une pondération sur l'état de la violence familiale parmi les chrétiens au Québec. La première chose que nous avons fait, et puis nous avons fait ça avec la collaboration des églises de l'Ouest de l'île, c'était un sondage. Les sondages, on vient juste de recueillir les résultats, puis on est en train de les analyser. Mais pour vous donner une idée de qui a répondu à ce sondage-là, et c'était juste un sondage qui était dirigé vers les chrétiens, ceux qui allaient à l'église, qui sont au Québec, et c'était pour savoir un peu leur perception et attitudes. Alors, qui a répondu? Plus de 500 personnes ont répondu. C'est des chrétiens qui fréquentent l'église régulièrement, donc pas juste des gens qui se disent chrétiens, mais vraiment qui sont dans nos églises. C'est des gens qui sont résidents au Québec, pas forcément des citoyens canadiens, mais un mix, donc 65% étaient nés au Canada. Et plusieurs répondants viennent de l'ouest de l'île, ici, dans nos quartiers. 33,59, donc presque 34% des répondants se considèrent victimes ou occasionnellement victimes de la violence conjugale. Et 67% des répondants, donc plus du deux tiers, connaissent un chrétien ou une chrétienne qui ont été ou qui est victime de la violence conjugale. Ça peut nous paraître très haut, mais ça, c'est très enligné envers Statistique Canada qui disent qu'environ 4 femmes sur 10, une fois dans sa vie, aura vécu une expérience de violence. Donc, l'Église est complètement enlignée avec la réalité canadienne. À la question, pensez-vous que votre église ou votre paroisse ou votre communauté locale doit faire plus pour sensibiliser ses membres à la violence conjugale? 73% des répondants ont dit oui. Et à la question, les enjeux concernant la violence conjugale et sa prévention doivent être abordés publiquement à l'église ou à la communauté locale chrétienne ou à sa paroisse? 84% des gens ont dit oui. Donc, le mandat est assez clair. Le mandat est assez clair. La majorité des gens veulent qu'on en parle à l'Église. Retournons à notre psaume. Je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire à partir du psaume 55 pour prier à travers et traverser cette situation qui nous tient tellement sous son emprise au Québec. La première chose qu'on voit, c'est que le psalmiste a un désir pour Dieu et il y a un désir dans la prière. Il utilise la prière comme son point de départ. Alors, il dit, « Quant à moi, je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. » Donc, lorsque j'utilise ce psaume-là avec des personnes qui vivent de la violence, je leur dis, ce qui est très intéressant dans ces versets-là, c'est un cri du cœur envers Dieu avec aucun agenda. C'est simplement je me mets et je l'exprime. Et la première étape pour qu'on soit nous-mêmes des personnes qui vivent les impacts de la violence ou qu'on soit simplement amis, membres de la famille, chrétiens concernés, on peut commencer, notre point de départ peut être dans ce cri du cœur-là en disant « je l'exprime ». Et ce que j'ai vu plusieurs fois et à de maintes reprises dans les témoignages que je recueille des femmes qui ont passé à travers ces histoires-là, c'est l'importance d'une pratique de la prière. C'est l'importance d'avoir cette liberté-là de crier envers Dieu et de dire « Non, je vois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Dieu, oh mon Dieu, écoute-moi. » Ça commence là. Je pourrais vous raconter l'histoire de Déborah, qui a vécu des années dans une relation très abusive et en priant un jour, elle a senti que l'Esprit-Saint lui avait dit « Appelle tel couple. » C'était des amis qui habitaient dans un autre village. Elle a eu ce sentiment-là. Elle a pris le téléphone, elle a appelé ses amis. Elle a dit « Il n'y a personne d'autre au monde qui sait ce que je vais vous raconter, mais il faut que je vous raconte. » Et tout de suite, ces deux chers amis-là ont dit « Déborah, embarque dans la voiture puis viens nous voir. » Elle est allée leur voir, ils ont pris un temps de prière ensemble et pendant plus de 2 ans, à chaque semaine, c'était des rencontres de prière qu'elle faisait avec ce couple-là et c'était les deux seules personnes à savoir. Ils l'ont tenue, ils l'ont accueillie, ils l'ont accompagnée jusqu'à ce qu'elle soit prête à prendre action. C'était ses alliés, c'était ses anges gardiens, c'était ses pères de prière. Et c'est ce couple-là qui lui a donné la force à agir lorsqu'il était temps. Je pourrais vous raconter l'histoire de Marie-Josée. Elle aussi, elle était dans un groupe de prière, puis il y avait une religieuse qui était là. Puis elle a dit, ben, il faut vraiment que je vous raconte quelque chose. Et elle a dit, ça fait toute la différence d'avoir un partenaire de prière qui lui a regardé dans les yeux. Puis elle a dit, Marie-Josée, je te crois. Je te crois, je t'entends. Et je vais prier pour toi tous les jours jusqu'à ce que tu me dises ce que tu as besoin de moi. Et à ce jour, Marie-Josée dit, elle prie pour moi tous les jours et moi je prie pour elle à tous les jours. Et ça a été mon allié. David ici nous donne son rythme de prière. C'était dans son agenda. Il dit le soir, le matin et à midi. Il y avait une pratique. Et je pense que ce que je suis en train de constater dans le rôle de la prière et des histoires de détresse, c'est ces pratiques-là. C'est pas seulement les paroles utilisées, mais c'est les gens avec qui on prie, puis c'est le rythme avec lequel on prie. Et des fois, c'est ça. C'est d'avoir ces personnes-là, puis avoir ce rythme-là qui nous rappelle que Dieu veut autre chose pour nous. On constate aussi que chez le psalmiste, on a un désir ou une expression pour la sécurité. Il dit « Seulement si j'avais des ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Oui, je fuirais bien loin, j'irais habiter au désert. Je m'échapperais bien vite, plus rapide que le vent impétueux que la tempête. » J'ai présenté ces mêmes versets-là à une autre église, puis il y avait quelqu'un qui est venu me voir après. Il dit « Jenna, il faut que je te dise. » Lui, il était linguiste, puis il dit « Le désert en hébreu, La racine du mot, c'est la même racine que de se retrouver en présence de Dieu. Alors ici, on voit un désir, non pas de fuir Dieu, mais de fuir envers Dieu. Et ce que le psalmiste est en train de nous raconter ici, instinctivement, intuitivement, c'est le fait que nous sommes créés pour être en communion avec Dieu, mais ça veut dire aussi que nous sommes créés pour être en sécurité, sécurité physique, sécurité émotionnelle et sécurité spirituelle. Et à de maintes reprises dans la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous avons histoire après histoire de Dieu qui tire quelqu'un en détresse vers la sécurité. Si nous savons instinctivement, intuitivement, que la violence, nous ne sommes pas faites pour la violence, c'est parce que nous sommes faites pour être en communion avec Dieu. Et là où est Dieu n'est pas la violence. Dans une de mes entrevues avec une femme, Esther, je lui ai demandé comment est-ce que ta foi ou tes croyances ont évolué à travers toutes ces histoires-là. Puis elle a dit, « Ben moi, s'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est que Dieu est amour et la violence, Dieu n'y est pas. » Dieu est dans l'amour et la violence, Dieu n'y est pas. Alors, ce matin, je parle à vous. Et si vous avez été dans une relation violente, si vous avez été trahi, si vous vous retrouvez dans ça, sachez que vous êtes créé à l'image de Dieu. Vous êtes créé pour la communion avec Dieu. Et la communion avec Dieu, c'est également la sécurité, c'est des relations saines, c'est la santé spirituelle, c'est la santé physique, c'est la santé émotionnelle. Et je parle à nous tous, nous qui sommes frères et sœurs, amis, famille, si nous avons des personnes précieuses dans notre vie qui vivent des situations, que ça soit entre couples, que ça soit enfants-parents, que ce soit des enfants qui font face à la violence dans la cour d'école, parmi les amis, soyons le refuge. Soyons le désert envers la personne qui a besoin d'être en communion avec Dieu. Soyez ces personnes-là, ces anges gardiens-là, ces personnes saintes-là qui ont été là pour Déborah, pour Marie-Josée, qui n'étaient pas forcément des psychologues professionnels, des infirmières de haut niveau, c'était simplement des frères et des sœurs en Christ qui ont su qu'elles devaient être là pour la personne qui avait besoin d'aide. Lorsque moi-même, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas criminologue, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, mais lorsque j'ai une femme qui m'appelle, ma première question, ce sera « Êtes-vous en sécurité? » Êtes-vous en sécurité? Et le nombre de fois que j'ai quelqu'un qui me répond, vous êtes la première chrétienne à me demander cette question-là. Et ensuite, je n'hésite pas, je dis, qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous voulez? Comment est-ce que je peux prier pour vous? Voulez-vous un numéro de téléphone d'une ressource? C'est des questions qui sont tout simples et qui sont précieuses et qui démontrent l'amour de Jésus-Christ pour cette personne-là. Alors, les deux choses pour nous les chrétiens, cherchons le refuge, décrit en psaume 55, mais aussi soyons le refuge, décrit en psaume 55. Pour terminer, j'aimerais ça qu'on lise ensemble ces versets-là. Un peu comme bénédiction pour nous tous et aussi pour ceux qu'on aime. Parce que je pense que c'est la voix de Dieu parmi cette voix-là qui amène son peuple vers sa communion en lui. Donc, on peut commencer. Je dis, si seulement j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais, je trouverais le repos. Oui, je fuirais bien loin, j'irais habiter au désert. Je m'échapperais bien vite, plus rapide que le vent, impétueux que la tempête. Quant à moi, je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je soupire, je gémis. Il entendra ma voix, il me délivrera de leur assaut et me rendra la paix. Quant à moi, je me confie en toi. Soyez bénis.